Anton Tchekhov, le drame. Pavel Vassilitch, une dame est venue et vous demande, annonça Luka. Elle attend depuis 1 heure. Pavel Vassilitch sortait de son déjeuner. En entendant parler d'une dame, il fit une grimace et dit « Oh, que s'en aille au diable, dis-lui je suis occupé !» Elle est déjà venue 5 fois, Pavel Vassilitch. Elle dit qu'elle a absolument besoin de vous voir. Elle pleure presque. Bon, eh bien, fais-la entrer dans mon cabinet. Pavel Vassilitch, sans se presser, mit sa redingote, prit une plume dans une main, un livre dans l'autre, et se donnant l'air d'un homme accablé de besogne, entra dans le cabinet où la visiteuse déjà l'attendait. C'était une dame grande, forte, à la figure rouge et pleine, en lunettes, d'un extérieur très respectable et vêtue très convenablement. Elle portait une tournure et un chapeau avec un oiseau roux. À la vue du maître de la maison, elle roula ses yeux dans leurs orbites et joignit ses mains comme pour la prière. « Non, vous ne me reconnaissez certainement pas, » dit-elle d'une voix de regomme et visiblement émue. « J'ai eu le plaisir de faire votre connaissance chez les Kloutsarski. Je suis madame Mourachkin. » « Ah oui, asseyez-vous, madame. Qu'y a-t-il pour votre service ?»« Voyez-vous, je... » continua la dame en s'asseyant de plus en plus émue. « Vous ne me reconnaissez pas. Je suis madame Mourachkin. » « Je suis une grande admiratrice de votre talent et je lis toujours avec délice vos articles. »« Bon, ne pensez pas que je veuille vous flatter, Dieu m'en garde. Je ne fais que vous rendre ce qui vous est dû. »« Je vous lis toujours, toujours. »« Oh, je ne suis pas moi-même tout à fait étrangère à la littérature. »« Je n'ose certes pas me qualifier d'écrivain, mais tout de même, il y a dans la ruche une goutte de mon miel aussi. » J'ai publié à différentes époques 3 contes pour enfants. Vous n'avez pas lu, sans doute. J'ai beaucoup traduit, et feu mon père travaillait dans la revue Le Diello. Mais en quoi puis-je vous être utile, madame? Riez-vous? Madame Mourachkin baissa les yeux et rougit. Je connais votre talent et vos convictions, Pavel Vassilitch, et je voudrais connaître votre opinion, plutôt. Vous demandez conseil. Il faut dire que, pardon pour l'expression, j'ai accouché d'un drame et avant de l'envoyer à la censure, je voudrais connaître votre opinion. Nerveusement, avec l'expression d'un oiseau attrapé et pris, la Mourachkin fouilla dans sa poche et en tira un cahier épais et gras. Pavel Vassilitch n'aimait que ses propres articles. Les manuscrits d'autrui qu'il devait entendre ou lire faisaient toujours sur lui l'effet d'un trou de canon braqué sur sa figure. À la vue du cahier, il prit peur et s'empressa de dire « C'est bien, laissez-moi ça, je vous le lirai. » « Pavel Vassilitch, » supplia la Mourachkin en se levant et en rejoignant ses mains. « Je sais que vous êtes occupé, que vos moments sont précieux. Je sais qu'intérieurement vous m'envoyez au diable, mais ayez la bonté. Permettez-moi de vous lire mon drame tout de suite. Soyez gentil. »«
Mais avec plaisir, » fit Pavel Vassilitch, un peu embarrassé.
« Cependant, madame, je suis attendu. Il faut que je sorte tout de suite. » « Pavel Vassilitch, » gémit la dame, et ses yeux se remplirent de larmes. « Je vous demande un sacrifice. Je suis importune, insolente, mais vous, soyez magnanime. Je pars demain pour Kazan, et je voudrais auparavant connaître votre opinion. Prêtez-moi une demi-heure de votre attention. Une demi-heure seulement, je vous en supplie. »
Pavel Vassilitch avait au fond le caractère faible. Il ne savait pas refuser. En voyant la dame sur le point de sangloter et de s'agenouiller devant lui, il devint confus et murmura Bien, soit, je vous écouterai une demi-heure. La Mourachkine poussa une exclamation de joie, ôta son chapeau et, s'étant assise, commença la lecture. Elle lit d'abord comme quoi le valet de chambre est la bonne en faisant la pièce. Un salon luxueux parle longuement de Mademoiselle Anna Sirievna qui a construit dans le village un hôpital et une école. Puis le valet de chambre sortit, monologue de la bonne sur la science qui est la lumière et sur l'ignorance qui est l'obscurité. Rentrée du valet qui, à son tour, récite un long monologue sur son maître, lequel abomine les convictions de sa fille et s'apprête à la marier avec un riche Kammerjunker. Trouve d'ailleurs que le salut du peuple est dans la complète ignorance. Les domestiques sortent, entre mademoiselle elle-même. Elle déclare au spectateur qu'elle n'a pas dormi de la nuit, car elle pensait à Valentin Ivanovitch, le fils d'un pauvre instituteur malade qu'il soutenait par son travail. Valentin a étudié toutes les sciences, mais il ne croit ni à l'amitié ni à l'amour, n'a pas de but dans la vie et désire la mort. C'est pourquoi mademoiselle a le devoir de le sauver. Pavel Vassilitch écoutait et songeait avec angoisse à son canapé. Il regardait avec rage la Mourachkine, sentait la voix de Rogom lui taper sur les tympans, mais il ne comprenait rien, et il pensait « Mais c'est le diable qui t'a amené, et pourquoi écouterais-je ton galimatia? Est-ce de ma faute si tu as fait un drame, quoi? Et qu'il est gros, ce cahier, mon Dieu, qu'il est gros! Voilà un supplice !» Pavel Vassilitch regarda le mur où était suspendu le portrait de sa femme. Il se rappela que sa femme lui avait dit d'apporter à la campagne 5 archives de rubans de coton, 1 livre de fromage et de la poudre pour les dents. « Ah, mais j'ai peur d'avoir perdu l'échantillon de ruban, » pensa-t-il. « Où l'avais-je mis déjà ?»« Non, le veston bleu, il me semble. » « Oh, ces sacrées bouches! Elles ont déjà recouvert de leurs poings le portrait de ma femme. »« Faudra dire à Olga de laver le verre. » Elle lit la scène 12. Le premier acte va donc être terminé. Mais comment, par ces chaleurs, et encore avec une corpulence pareille, une pareille montagne de chair, comment l'inspiration est-elle possible? Au lieu d'écrire des drames, elle ferait mieux de manger de la soupe froide et de dormir dans une cave. « Vous ne trouvez pas ce monologue un peu long ?» lui demanda soudain la Mourachkine en levant les yeux. Paul Vassilitch n'avait pas entendu le monologue. Il se troubla et dit de l'air d'un coupable, comme si ça avait été lui-même et non la dame qui perpétrait ce monologue. « Non, 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 du tout, très gentil. » La Mourachkine rayonna de bonheur et continua. « Anna, c'est l'analyse qui vous a perdu. Vous avez trop essayé de vivre par le cœur et vous vous êtes trop abandonné à la raison seule. » Valentin, « Qu'est-ce que le cœur? C'est une notion anatomique. » Comme terme conventionnel de ce qu'on appelle les sentiments, je ne le reconnais pas. Anna, légèrement troublée. Et l'amour, est-il lui aussi le simple produit d'une association d'idées? Parlez-moi franchement. Vous avez aimé? Valentin, avec amertume. Oh, ne touchons pas aux blessures mal fermées. Un silence. À quoi pensez-vous? Anna. Il me semble que vous êtes malheureux. À la scène du 16, Pavel Vassilitch bâilla et produisit avec ses dents le bruit que font les chiens en attrapant des mouches. Ce bruit inconvenant l'effraya et, pour le masquer, il donna à sa figure l'air d'une attention très aimable. Scène 17. Ah, quand donc la fin, pensa-t-il, oh mon Dieu, mais si cela continue encore 10 minutes, je crierai, c'est insupportable. Mais voici enfin que la dame commence à lire plus vite et plus haut, et lit finalement « Rideau ». Pavel Vassilitch respira et s'apprêta à se lever. Mais aussitôt la Bourachkine tourna la page et continua à lire. Acte deuxième. La scène représente une rue de village. À droite, une école. À gauche, un hôpital. Sur le perron de ce dernier sont assis des paysans et des paysannes. « Pardon, interrompit Pavel Vassilitch, combien d'actes y a-t-il en tout dans votre drame ?»« 5 !» répond la Mourachkine. Et aussitôt, comme craignant que l'auditeur ne se sauve, elle poursuit. Par la fenêtre de l'école, regarde Valentin. On voit, dans le fond de la scène, des paysans porter leurs maigres biens chez le cabaretier. Comme un condamné à mort, sûr de ne pas être gracié, Pavel Vassilitch n'attendait plus la fin, n'espérait plus rien. Il tâchait seulement à ne pas laisser ses yeux se coller et à conserver sur son visage une expression attentive. Le moment où la dame finirait sa lecture et s'en irait, lui semblait maintenant si éloigné qu'il n'y pensait même plus. « Tout, 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 tout !» bourdonnait dans ses oreilles la voix d'Amourachkine. « Tout, tout, je... Ah, j'ai oublié de prendre du soda, » pensa-t-il. « Ah, qu'est-ce que je disais déjà ? Ah oui, le soda. C'est évidemment une catarrhe de l'estomac. C'est bizarre, cela. Svidovski boit de la vodka. Toute la journée, il n'a pas de catarrhe. Un oiseau vient se poser sur la fenêtre. Ah, un moineau. » Pavel Vassilitch fit un effort pour décoller ses paupières alourdies, bâilla sans ouvrir la bouche et regarda la Mourachkine. Celle-ci devint nébuleuse, chancela, lui parut avoir 3 têtes qui touchaient au plafond. Valentin. Non, permettez-moi de partir. Anna effrayée. « Pourquoi ?» Valentin à part. Elle pâlit. Anna. « Oh, ne me faites pas dire pourquoi. Je mourrais plutôt que de vous la prendre. » Anna, après un silence. « Mais vous ne pouvez plus partir. » La Mourachkine commença à se gonfler. Bientôt, elle fut énorme et se confondit avec l'air gris du cabinet. On ne voyait que sa bouche en mouvement. Puis elle devint tout à coup petite comme un flacon et recula avec la table dans le fond de la chambre. Valentin, tenant Anna dans ses bras. « Oh, tu m'as ressuscité, tu m'as montré un but pour la vie, tu m'as renouvelé comme une pluie renouvelle la terre ranimée. Mais... oh, il est trop tard, un mal incurable ronge ma poitrine. » Pavel Vassilitch tressaillit et fixa des yeux troubles sur la Mourachkine. Il regarda 1 minute immobile, comme s'il ne comprenait rien. Scène 11. Les mêmes, le baron, le commissaire de police avec les témoins. Valentin. « Prenez-moi, Anna. Je suis à lui. Prenez-moi aussi. Lui et moi aussi. Je l'aime, plus que ma vie. » Le baron. « Anna Sergeyevna, vous oubliez que par vos paroles, vous perdrez votre père. » La Mourachkine commença de nouveau à se gonfler. Ramenant autour de lui un regard égaré, Pavel Vassilitch se leva, poussa un cri sauvage du fond de la poitrine, saisit un lourd presse-papier sur la table et, sans savoir ce qu'il faisait, en frappa de toute sa force la Mourachkine à la tête. Liez-moi, je l'ai tué, dit-il une minute après aux domestiques accourus. Le jury la quitta.